Ésaïe chapitre 46, je me suis arrêté sur cette vérité. C'est un point de doctrine, bien évidemment. Et ça me paraissait important de revenir là-dessus et vous allez voir que Dieu seul règne. Est-ce que vous doutez de ça? Tout le monde est persuadé que Dieu seul règne? Bon, mais j'ai plus rien à dire alors. Je ne peux pas argumenter. On va en parler ensemble, on va se réjouir. Et on va bénir l'Éternel pour cette vérité. Et j'aimerais que l'on prenne totalement conscience de tout ce que cela signifie. Le premier passage donc que nous lisons, Ésaïe 46, verset 9. « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. » J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. J'ai souligné, je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Un autre texte dans l'épître de Paul aux Romains. Chapitre 8, Romains chapitre 8, les lecteurs de la Bible connaissent bien ce passage, à partir du verset 31. Romains chapitre 8, verset 31. « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution? Ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai souligné, j'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. D'un côté, on a lu dans ce texte d'Ésaïe qu'un seul règne et c'est Dieu. Et d'un autre côté, rien, c'est également absolu, rien ne pourra nous séparer de Dieu lui-même. On a toujours eu besoin d'échelles de valeurs pour pouvoir comparer. C'est comme ça. Pour savoir si on est intelligent, il faut avoir un curseur. Il faut savoir ce qu'est la bêtise. C'est comme ça qu'on peut mesurer son degré d'intelligence. Et ici-bas, on a l'impression qu'on veut toujours trouver tout et son contraire. C'est humain, c'est comme ça. Même si vous ne le voulez pas, il me semble qu'on est tous fait pareil et on a besoin de pouvoir se situer, donc on évalue tout. Il me semble que quand on en opposition au bien, on met souvent le mal. Si je vous disais qu'est-ce qu'il y a en face du bien, c'est quoi le contraire du bien? Vous m'auriez dit le mal. C'est quoi le contraire de ce qui est beau? C'est ce qui est laid, ce qui est moche. C'est quoi le contraire de ce qui est l'intelligence? On y pense tous, hein? Ben, c'est la stupidité, celui qui est stupide. C'est quoi l'opposé du sage? C'est celui qui est fou, c'est celui qui est insensé. Mais dites-moi, c'est quoi l'opposé de Dieu? Vous êtes sûr? rien ni personne. Et c'est volontairement que je voulais qu'on parle de ça ce matin. Parce que bizarrement, on a toujours opposé le diable à Dieu. Mais on fait une erreur en faisant cela. Je pense qu'on donne beaucoup trop d'importance au diable, qu'il n'en mérite, en le faisant l'opposé, sous-entendu l'équivalence, mais côté sombre, côté obscur, côté noir. Le diable n'est pas l'opposé de Dieu, absolument pas. C'est bien moindre que cela. Mais évidemment, ça va dans ce sens-là, et vous allez comprendre où je veux en venir, parce que, dans le fond, où est-ce qu'on peut situer le diable? Il y a des textes dans l'Écriture qui nous expliquent cela, mais n'oubliez pas que, en premier lieu, le diable est une créature. Le diable a été créé par Dieu. Dieu n'a jamais été créé, il est créateur. Il existe depuis toujours. Première grosse différence, me semble-t-il, le diable n'est qu'une créature. Et on va lire ces textes dans un petit moment, mais n'oubliez pas que il est au-dessous de Dieu et il est finalement soumis à son autorité. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il a une certaine latitude, c'est une évidence, mais il est soumis à Dieu. Souvenez-vous quand le diable viendra discuter du sort du pauvre Job avec Dieu. Dieu a accepté que le diable vienne en sa présence pour discuter de cela. Et quand le diable va faire un deal avec Dieu, en disant « mais il te loue, il t'adore, il t'aime, mais c'est normal, il ne lui manque rien, tout est parfait pour lui. » On sait très bien, parce que le texte nous le dit, que Dieu va accepter que le diable éprouve Job. Et le diable va éprouver Job. Mais à un moment donné, parce que Job tient bon, malgré tout, jamais il ne va contester contre Dieu, jamais il n'en voudra à Dieu. D'ailleurs, il dira même, Dieu a donné, Dieu a repris, je continuerai de le bénir malgré tout. Il faut le faire, hein. Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et puis ça va aller beaucoup plus loin, parce que le diable revient à la charge en disant, mais c'est normal, enlève-lui la santé, enlève-lui ce qu'il possède, et je suis sûr qu'il te maudira, je suis sûr que si tu l'attaques lui personnellement, il te rejettera. Et Dieu dira, d'accord, je te permets de l'éprouver, mais ne touche pas à sa vie. Voyez qui commande? C'est Dieu. Le diable n'a pas pu enlever la vie de Job. Oh, je ne suis pas loin de penser qu'il l'aurait bien voulu. Hein. Je ne suis pas loin de me dire que s'il avait pu l'écraser littéralement, il l'aurait fait. Mais Dieu a dit non. Voilà ton autorité, ce que je te laisse faire. Vous comprenez que le diable n'est que soumis, malgré tout, à l'autorité de Dieu. Pendant un moment, ça s'est très bien passé, entre parenthèses. Très, très bien passé. On va le voir dans les deux textes de référence. Ça s'est vraiment très bien passé, mais c'est son orgueil qu'il a lâché, qu'il a perdu, qu'il a totalement dévoyé. C'est son orgueil. Parce que l'orgueil de Satan, de Lucifer, du diable, ne l'a pas rendu fort, mais l'a rendu plutôt présomptueux. Ça ne l'a pas rendu plus fort. Ça l'a au contraire rendu prétentieux. Et il a imaginé qu'il pouvait prendre la place de Dieu. Et là, Dieu a dit stop. Donc, quelque part, on se rend compte que le diable, qui est défini dans l'Écriture, et on va lire ces textes comme un astre brillant, mais il a été précipité sur la terre, il a été abattu à terre, il n'a pas pu résister au jugement de Dieu. On va lire deux passages, ils ne sont pas en entier à l'écran, c'est juste quelques points de référence, mais si vous avez vos Bibles, j'aimerais bien qu'on le lise en entier. Dans Ésaïe chapitre 14, et à partir du verset 12, Ésaïe 14, verset 12, c'est une prophétie qui est rendue sur des royaumes de la terre. Tyr, notamment, sera jugé de cette manière-là, et on comprend l'analogie. Il s'agit évidemment de rappeler ce qu'est et ce qu'était le diable, le maître, en quelque sorte, de tous les royaumes de la terre. Il est dit ceci, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? On va aller un peu plus loin dans le livre d'Ézéchiel. Ce sont deux passages qui se font écho. Ézéchiel au chapitre 28. Ézéchiel 28. Et à partir du verset 12. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ézéchiel 28, 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Description du diable, hein, de Lucifer, Satan. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onisque, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne, la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as rempli de violence. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Amen. Vous voyez quel est le sort réservé au diable? Tu ne seras plus à jamais. Je te réduis, non pas simplement à néant, mais je te réduis au néant. Si vous regardez à la fin de l'Apocalypse, quelles sont les promesses et la révélation que Jean a eue, vous apercevez que l'enfer va être ouvert et que le diable va être jeté en enfer et tous les démons avec lui, et ça va être scellé, terminé pour l'éternité. Vous avez là une description du pouvoir du diable, de ce qu'il est capable de faire et surtout de ce qu'il est capable de ne pas faire. Je suis un peu gêné lorsque l'on met en opposition, parce que c'est automatique, quand on met en opposition le diable et Dieu, parce que quelque part on se met sous un joug que l'on ne mérite pas de supporter, ne mérite pas d'être sous ce joug-là. Quand Dieu dira à Satan, tous les royaumes de la terre seront stupéfaits de voir à quoi tu es réduit, toi, celui qui était brillant, l'astre brillant, le fils de l'aurore, donc d'une majesté incroyable, mais tu as été précipité à terre, tu as été jeté, réduit à rien, mais c'est suffocant. Mais quand on est rassemblé comme ça, à chaque fois qu'on se rassemble, c'est une défaite pour le diable. C'est sa défaite. Ce n'est pas son triomphe, c'est sa défaite. On a tous été là ce matin pour proclamer que Jésus a sauvé, racheté notre âme à la croix. Vous l'avez fait. On a tous dit que celui qui a délivré notre cœur, c'est Dieu. Celui à qui nous appartenons, c'est Dieu. Mais c'est une défaite contre le diable. Alors on n'est pas là pour l'élever, on n'est pas là pour en avoir peur. Et on verra dans quelle mesure Il y a évidemment des précautions à ce que je vous dis là et des précautions à avoir, mais quand même, ne donnons pas trop d'honneur à celui qui n'en mérite pas, mais rendons toute la gloire à Dieu. Voyez où il faut le situer, en face de Dieu, il n'y a personne. En opposition à Dieu, il n'y a rien. Il n'y a personne. Il est le seul. Il est au-dessus. Il règne. Et béni soit Dieu s'il règne sur nos vies. Béni soit Dieu si ce matin nous pouvons dire qu'il règne sur nos cœurs. Un auteur américain qui a beaucoup écrit, Tozer, qui est décédé maintenant, a dit ceci. Je n'ai pas peur du diable. Le diable peut me manipuler, essayer de me contrôler, mais il ne peut pas contrôler celui qui m'accompagne. Il ne peut pas contrôler celui à qui je suis uni, celui dont la nature m'habite. Il peut essayer de m'en serrer, il ne touchera pas cette présence de Dieu en moi. Impossible. Savez-vous, et c'est l'apôtre Jean qui nous rappelle ceci, l'apôtre Pierre, pardon, que nous sommes participants de la nature divine. Quelque part, j'aime beaucoup cette phrase parce que c'est un homme qui a compris à quel niveau il fallait placer son adversaire. Adversaire redoutable, certainement. Mais notre Rédempteur est plus fort que cela. Quand Jésus meurt à la croix, le diable est satisfait. Hein, se dit, ça y est, fini, j'en suis débarrassé. Il n'imaginait pas qu'il ressusciterait. Hein. Sauf que quand 3 jours plus tard, le tombeau est vide, et que malgré tout, on avait mis des gardes, on avait scellé la pierre, rien n'y a fait. Jésus est ressuscité d'entre les morts, et que comme une seule parade, il a fallu payer les gardes pour dire, si on vient vous poser la question, dites que ses disciples sont venus enlever son corps. Mais ce n'est pas un corps mort qui a disparu de ce sépulcre, c'est un Jésus ressuscité qui en est sorti, parce qu'il avait vaincu la mort. Finalement, l'épreuve ultime pour tous les êtres humains, c'est quand même la mort. Hein. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. En fait, je m'aperçois que, si on y regarde bien, quand vous voyez ce que ces hommes de la Bible avaient compris, personne n'est semblable à notre Dieu, parce que Dieu, lui, il est en haut. Et le diable, il est en bas. Ouais, c'est ça, Jeannette. Dieu est en haut, et le diable n'y est pas en haut. Il est en bas. Il est dans les lieux célestes, certainement. Mais Dieu est au-dessus. Dieu est au-dessus. C'est pas vrai que lorsque l'on est dans une position dominante, on voit mieux ce qui se passe en dessous? Si vous voulez bien voir ce qui se passe à 200, 300 mètres à la ronde, montez à l'étage, montez sur une échelle, allez sur une colline, et vous verrez bien ce qui se passe. Si vous êtes au fond de la vallée, vous voyez pas bien. Hein. Mais quand on prend de la hauteur, on voit mieux. Celui qui est tout en haut, c'est Dieu. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Nul n'est comparable à toi. Quand Moïse a dû aller affronter l'Égypte et le Pharaon, il y a eu les fameuses plaies d'Égypte. Combien de fois Moïse est arrivé avec un jugement de Dieu? Et le Pharaon s'en est moqué. D'ailleurs, il dira même, mais qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Je ne connais pas l'Éternel. Alors Dieu va se révéler à Pharaon. Avec des plaies, avec des calamités, avec des souffrances. Et à chaque fois, le Pharaon revient vers Moïse en disant « Prie ton Dieu qu'il éloigne le malheur, prie ton Dieu qu'il éloigne la plaie, prie ton Dieu qu'il éloigne la malédiction. » Et à chaque fois, Moïse le fera. Mais la leçon que Dieu voulait donner à Pharaon est à l'écran. Il dira ceci, il en sera ainsi plusieurs fois, des phrases à peu près similaires, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. À un moment donné, d'ailleurs, ça a été tellement évident parce que le Pharaon avait ses magiciens, il avait ses hommes, entre guillemets, qui touchaient au monde occulte pour essayer de refaire ce que Moïse montrait comme signe. Mais à un moment donné, le signe que Moïse a produit était tellement irrefaisable, imparable, que même les magiciens ont dit, c'est le doigt de Dieu. À un moment donné, il n'y a que Dieu qui fait. À un moment donné, Dieu est au-dessus. J'aimerais que vous en soyez persuadés, Dieu est au-dessus. Je n'ai pas peur du diable. Le diable peut essayer de m'effrayer. Il peut essayer de me serrer comme ça. Il peut essayer de m'agiter, de me secouer. Et il ne manquera pas de le faire. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas que Il peut vous secouer dans tous les sens, mais il ne contrôlera jamais cette espérance qui habite votre cœur, cette voix de Dieu qui te dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Cette assurance d'Ésaïe 40, comme je l'ai lu tout à l'heure. « Pourquoi dis-tu, mon avenir est caché devant Dieu ? Pourquoi dis-tu, ma destinée est cachée devant Dieu ? Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ?» C'est le Créateur qui prend soin de ses enfants. Dieu prend soin de vous. Il ne vous arrivera rien tant que vous êtes persuadé que ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Alors, il me semble qu'il y a deux attitudes, en fait, à saisir, à avoir et à saisir. La première attitude, c'est celle que va comprendre Daniel, le prophète Daniel. On va lire ensemble, dans le livre de Daniel, donc, quelques versets. Daniel, chapitre 10. Chapitre 10. Daniel est un homme de foi, et Daniel est un homme de prière. Et Daniel a mené le bon combat. J'ai souligné le bon combat. Pourquoi ? Parce que Daniel a su contre quoi il fallait se battre, et surtout contre qui il fallait se battre. Quelquefois, on ne sait pas trop contre quoi, contre qui on doit se battre. Peut-être pour ça que ça ne marche pas, ou en tous les cas qu'on s'épuise. Mais lui, il a su contre quoi et contre qui il devait se battre. Daniel, chapitre 10. Le texte est un petit peu long, mais au moins il est clair. Daniel, chapitre 10, verset 1er. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Et il fut attentif à cette parole, et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flambeaux, des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et je fus décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles. Et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombai, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. » Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'archange Michel dans le Nouveau Testament, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait la parole, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici, quelqu'un avait l'apparence des fils de l'homme. Qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur ? Maintenant, les forces me manquent, je n'ai plus de souffle. » Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia, puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage !» Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Amen. » Vous avez au moins trois personnes, trois personnages. Vous avez Daniel, vous avez celui qui apparaît et qui va saisir Daniel, on ne sait pas qui c'est, aucun des commentateurs n'est capable de vous dire qui est cet homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du phase, son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair. Certains ont pensé que c'était une préfiguration du Messie, de Jésus. D'autres, une apparition divine. Il y a quelque chose, en tous les cas, d'assez surprenant, ou peut-être un ange uniquement au service de Dieu. Mais c'est assez surprenant que de voir dans l'Apocalypse Jean décrire quelque chose d'un peu similaire. Je vous le lis, c'est au chapitre 1er. « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. » Ça se ressemble. Alors allez savoir, il y a peut-être effectivement une vision de Dieu derrière tout cela. Le fait est que tout à coup, un ange vient annoncer à Daniel ce qui va arriver. Et il lui explique quoi ? Ben, il lui dit que dès le premier jour où Daniel s'est mis à prier, vous avez compris qu'il a eu une vision, ça l'a attristé littéralement, ça l'a effrayé de se dire « mais dans quel monde on s'en va ?» Alors il s'est mis à jeûner, à prier un jeûne partiel. Vous avez vu qu'il n'a pas pris de viande, pas de vin. Et pendant 3 semaines, il a bataillé. Ça laisse sous-entendre que pendant 3 semaines, il n'a pas eu de réponse. Mais tant que Dieu lui a pas dit non, lui, il croit que Dieu lui a dit oui. Amen. Frères et sœurs, tant que Dieu vous a pas dit non, croyez qu'il vous a dit oui. Comme ça, au moins, ça vous maintient dans la foi et dans la prière. Et donc, il a continué à prier. Et il s'est tenu devant Dieu. Il aurait pu se poser toutes sortes de questions, mais comment ça se fait que c'est si long ? Ça fait 3 semaines que je prie et Dieu ne me répond pas. Mais où est-il ? Que fait-il ? Et la réponse, vous l'avez. Et il nous a dit que pendant 3 semaines, ça a été des luttes et ça a été des batailles. Mais contre qui est-ce qu'il luttait ? Contre quoi est-ce qu'il luttait ? Si vous relisez le texte, il ne lutte pas contre le diable. Il lutte contre une grande calamité qui arrive. Il lutte contre cette vision qu'il a eue, une catastrophe. En fait, effectivement, il lutte contre les projets diaboliques. Il lutte contre les projets du diable qui veut, évidemment, détruire Israël et emmener ce peuple, après la captivité, vers l'anéantissement total. Est-ce qu'il pense être seul ? Sans réponse de la part de Dieu, on finirait par le croire. Et il a cru à un moment donné, « Je suis resté moi seul. Tous t'ont abandonné. » Heureusement que Dieu lui a dit qu'il n'était pas le seul, qu'il y en avait des dizaines comme lui. Mais quand même, je me dis qu'il comprend quand l'ange va lui dire « Écoute, dès le premier jour, ta prière a été exaucée, mais le roi de Perse m'a résisté et il a fallu que Michaël, que l'archange Michaël vienne, l'un des principaux chefs, vienne à mon secours et c'est lui maintenant qui maîtrise ses puissances occultes, spirituelles, dans les lieux célestes. C'est lui qui maîtrise tout cela. Et moi, je peux venir vers toi pour te dire, écoute, ta prière est exaucée. » Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Daniel prie et bataille et lutte sur la terre, mais il comprend en ce moment-là qu'au même moment où il lutte là, il y a une lutte à l'étage au-dessus. Il se passe quelque chose au-dessus. Il se passe quelque chose. Et c'est l'armée de Dieu, des anges, archanges, qui vont lutter pour les hommes qui sont sur la terre en train de supplier Dieu de faire quelque chose. Ça m'amène à penser, bien sûr, qu'il comprend que tout s'est joué là-haut. Il comprend que la victoire, elle a démarré là-haut. Et le succès a démarré en haut. Et nous savons, évidemment, que la victoire ne peut venir que d'en haut. Mais il comprend aussi que les anges et tous ceux qui ont bataillé, ont lutté, il comprend qu'ils ont pris la victoire et il comprend que le diable a perdu. Il comprend que le diable a perdu. Quelquefois, à force d'avoir tellement mis le diable en face de Dieu, on en oublierait qu'il a perdu. Il n'est pas son égal. Il est en dessous. Il a perdu. Frères et sœurs, vous êtes au-dessus normalement. Vous êtes au-dessus. Ça ne veut pas dire intouchable. Vous êtes au-dessus. Ça veut dire que votre foi, ce matin, est suffisante pour dire « J'ai toute confiance en Dieu. Ce qu'il a commencé, il l'achèvera. » La Bible dit que quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Il l'achève. C'est ça la vraie victoire que Dieu a donnée à Daniel et que Dieu nous donne. J'aime beaucoup cette phrase et la manière dont l'homme va s'adresser à Daniel parce qu'il est un peu décontenancé. D'ailleurs, quand il se trouve devant cet être mystérieux, il tombe par terre, terrassé, tient plus sur ses jambes. Et quand, vers la fin du texte, on comprend qu'il n'a même plus de souffle, il n'arrive pas à reprendre ses esprits et il a besoin de se tenir debout, alors cet homme viendra le fortifier. Et il lui dit « Courage, courage, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. » Différentes traductions de cette expression « homme bien-aimé » sont assez parlantes. Une traduction dira « Daniel, homme favorisé ». Pas le favori, mais on est quand même favorisé quand on appartient à Dieu, il n'y a pas de doute. Favorisé. La version du rabbinat français dira « homme de prédilection ». Ça veut dire que notre avenir est dans les mains de Dieu. Il sait vers où on s'en va et il a un avenir pour chacun d'entre vous. Une autre traduction dira « homme désirable et encore bien-aimé, vraiment précieux pour Dieu, hautement estimé ». Grandement aimé, pas mal de versions anglaises disent cela. Grandement aimé, hautement estimé. Vous vous rendez compte comment Dieu nous voit ce matin? Comment Dieu nous regarde? Tout à l'heure, vous avez loué Dieu. C'est un festival qui est monté vers le ciel. Des chants de louange, des chants d'adoration, votre adoration. Et Dieu s'est réjoui de cela. Et il peut vous dire ce matin, courage, courage, que la paix soit avec toi, courage, courage. On n'a pas à être enserré, on n'a pas à être accusé par le diable. Vous vous souvenez de ce texte de référence, Romains chapitre 8, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Rien, ni personne, parce que en opposition à Dieu, il n'y a rien. Il n'y a personne. Contre qui Daniel a lutté? Pas directement contre le diable, ça c'est l'affaire de Dieu. Il a lutté contre les projets diaboliques. Et Dieu s'est occupé de lui dans les lieux célestes et lui a donné la victoire. Vous êtes en sécurité, frères et sœurs. Je peux vous garantir que vous êtes en sécurité si vous êtes dans la main de Dieu lui-même. Amen. Et puis le deuxième point, on le trouve à la fin de la Bible. Est-ce qu'on peut lire ensemble dans Jude ce qu'il est dit? Une référence assez étonnante. Vous savez que c'est Dieu qui a enterré Moïse. On ne sait pas où il a été enterré. Il n'y a pas de mausolée, il n'y a pas de cimetière. On ne sait pas où il a été enterré. Mais on sait dans quelles conditions, peut-être, les choses se sont faites. Dans Jude, cet homme va expliquer quelques erreurs qui étaient commises dans les premiers siècles, à savoir que certains qui se disaient chrétiens, qui se disaient croyants, avaient la prétention de... Bon, ils se donnaient une capacité ou peut-être une puissance qu'ils n'avaient pas. Et ils étaient assez virulents. Et je crois que c'est important pour chacun d'entre nous de mener le bon combat et de développer, bien sûr, la bonne vision. Dans Jude, vous pourrez la lire tout en entier chez vous. Elle est très courte, cette lettre. Il y a à peine un chapitre. Mais on va lire verset 8 à verset 10. « Malgré cela, ces hommes aussi, donc des gens qui vivaient dans l'entourage de l'Église, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. » Quand on parle de gloire, on parle de tout ce qui est dans le monde céleste. Ils injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Amen. Vous vous rendez compte? Même l'archange Michel n'a pas insulté le diable. Il s'en est pas mêlé. Et il a dit que le Seigneur te réprime. C'était l'affaire, excusez l'expression, du patron. C'était l'affaire de Dieu. C'était lui, c'était son affaire. Et même lui, créature. D'ailleurs, dans cette hiérarchie, peut-être qu'au départ, ce fameux Lucifer était au-dessus, hein, de cet archange-là. Peut-être bien. Astre brillant, fils de l'aurore. Mais comme il a été déchu, il est en dessous et il est soumis à la seule volonté de Dieu malgré tout. Qu'est-ce que ça m'amène à penser? Tout simplement que nous avons besoin, frères et sœurs, de comprendre que si l'archange Michel n'a pas contesté avec le diable, c'est pas qu'il respectait le diable, non. C'est pas qu'il avait peur du diable, mais c'est qu'il respectait Dieu. Il respectait Dieu. C'était à Dieu de gérer ça. Frères et sœurs, quelquefois on s'est agité pour rien. On s'est noyé dans un verre d'eau parce qu'on s'est débattu tout seul, au mépris de ce que Dieu pouvait faire, en méprisant le secours divin. Et c'est comme si on lui avait dit « Ne prends pas tant de peine, je vais m'en occuper tout seul. » Sauf que ça marche rarement. Et on en prend des revers, malheureusement, et on est secoué de toutes parts. J'aimerais tant, ce matin, que dans votre vision des choses, vous puissiez comprendre et voir qu'en face de Dieu, il n'y a pas le diable. En face de Dieu, il n'y a personne. En opposition à Dieu, il n'y a rien. Tout est en dessous. Il y a de l'opposition, mais elle est un cran en dessous. Ça veut dire que si Dieu me fait monter jusqu'à lui, l'apôtre Paul dira aux Éphésiens que par la foi, nous sommes assis dans les lieux célestes. Notre place, elle est là-haut. Nous sommes avec lui. Nous régnerons avec lui. Ça veut dire que de cette position-là, je sais qu'un seul mot de sa bouche suffit à vaincre mon adversaire. Je sais qu'une seule parole qui sort de sa bouche suffit à me débarrasser de tous mes problèmes. Je bataille et je lutte et je me fatigue et je m'épuise parce que je veux abattre le diable. Je veux qu'il me lâche, je veux qu'il me laisse tranquille. Ne vous fatiguez pas à cela. Laissez Dieu faire. Laissez-le faire. Et nul doute qu'il vous bénira. Vous, ce que Dieu vous demande, c'est de garder la foi. Ce que Dieu vous demande, c'est de lutter. Ce que Dieu vous demande, c'est de prier, comme Daniel. 3 semaines dans la prière. Tant qu'il n'a pas été exaucé, il a prié. Dites-moi, pourquoi vous avez arrêté de prier puisque vous n'avez pas été exaucé? Pourquoi vous avez dit, allez, je m'engage dans la prière et je vais prier tous les matins, tous les soirs, je vais prier, je vais jeûner. Pourquoi vous avez arrêté? Pas de jeûner, mais de prier. Pourquoi vous avez arrêté? Pourtant, vous n'avez pas été exaucé. On se fatigue, on se lasse, on s'épuise, parce que peut-être qu'on a visé un mauvais adversaire. Je laisse Dieu s'occuper de mon ennemi. Je laisse Dieu s'occuper de mes amis aussi. Je laisse Dieu s'occuper de mon ennemi. Je le laisse régler cette affaire-là. Et je compte, moi, simplement, par la foi, de rester fidèle à Dieu. L'apôtre Jean dira ceci. Est-ce que je l'ai mis sur mes feuilles? Oui. Celui qui est en vous est plus grand. Redites-le, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est le diable, c'est sûr. La Bible dit dans l'Apocalypse qu'il a été précipité sur la terre et il est animé d'une grande colère. On en voit les effets, hein ? On en voit les effets. Mais le seul vainqueur, le seul qui gagne, qui gagnera, mais qui a déjà gagné, le seul qui gagne, c'est Dieu. Frères et sœurs, n'ayez pas peur. Dieu seul règne. Et si vous avez, il y a bien longtemps, dit « Moi, je crois que seul Dieu règne sur mes choix, sur ma vie, sur ma santé, sur mon être tout entier », alors je lui fais confiance. Et s'il y a des hauts et des bas, et s'il y a des difficultés, ça n'entame pas ma foi, ça n'entame pas ma joie, ça n'entame pas mon espérance, parce que je sais qu'il combat pour moi. Frères et sœurs, qui vous accusera? Qui vous séparera de l'amour de Dieu? Qui vous condamnera? Personne ne le peut, pas plus le diable que quelques créatures célestes et diaboliques que ce soit, rien ni personne. Vous appartenez à Christ, vous êtes à lui, alors que son nom soit béni, lui seul règne. Amen.